Si tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Tout le monde connaît la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. L'arbre prétentieux et sûr de sa force se moque du frêle roseau. La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Le roseau explique qu'il plie, mais ne rompt pas, ce qui ne semble pas convaincre le chêne. Puis vient la tempête, violente, terrible, destructrice. Elle vient aussi comme un jugement. Et l'arbre royal est déraciné tandis que le roseau a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Portes ouvertes distingue ces pressions en deux catégories différentes. Premièrement, l'oppression violente ou persécution marteau. On parle d'assassinat, de kidnapping, de mariage forcé, de destruction de biens. Deuxièmement, la pression par discrimination ou la persécution étau. Tout le monde sait ce qu'est un étau. Oppression, rejet, déni de droit, exclusion, procès injuste. Mais vous savez, chaque jour, je l'expérimente, la situation est terriblement encourageante. Allons regarder quelques exemples. Le premier, c'est l'Iran. L'Iran est une république islamique. Il occupe la 8e place dans l'index mondial de la persécution. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée par les autorités. Ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont le plus persécutés quand ils quittent l'islam. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, encore hier soir, j'en parlais avec des amis, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon nos analyses de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme, et si je vous disais que les mosquées sont vides, c'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens qui n'ont pas d'autre choix que des disciples. Aujourd'hui, nous estimons l'Église à 800 000 chrétiens iraniens en Iran. 800 000. 10 fois Chambéry. Deuxième exemple, nous en avons déjà beaucoup parlé ce matin, l'Inde. 10e place dans l'index. À cet endroit, les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical de M. Modi au pouvoir. Ils sont agressés, ostracisés, injustement accusés de convertir de force les hindous. Et parfois assassinés. Et pourtant, là aussi, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître. Et là, heureusement que vous êtes assis, les chrétiens sont passés, on est juste dans une autre dimension, c'est l'Inde, de 58 à 66 millions en quelques années. Mais rapporté à la population de l'Inde, c'est rien. Donc il y a un champ pour l'Église qui est énorme. Un expert qui connaît parfaitement le terrain déclare, à première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et viennent à la foi. Autre exemple, un pays où j'ai pu aller l'an dernier, le Bangladesh, pays musulman. La persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe et parfois par les enseignants. Sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent les convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Bangladesh, 900 000 chrétiens. C'est une nation énorme. 900 000, c'est infime et beaucoup. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, nous dit l'un de nos contacts sur place. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Je vous suggère d'ouvrir nos Bibles, après cette longue introduction, en 2 Corinthiens chapitre 4, que nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire, soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Verset 13, nous poursuivons. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Waouh ! Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans ce texte que nous venons de lire, Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il est sans doute l'un des mieux placés pour en parler. Vous vous rappelez, c'était l'un des premiers persécuteurs des chrétiens, puis celui qui a subi à son tour la persécution jusqu'à la mort. Voyons ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés aujourd'hui de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux, et découvrons comment ces enseignements peuvent impacter nos vies, nos propres vies. Première question, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Vous savez quoi? Parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor, verset 7, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Philippiens 3, verset 8 nous dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Est-ce qu'on en est convaincu aujourd'hui comme Paul l'a été? Selon le dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées et souvent soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor qu'il a déposé dans nos cœurs. Mais comme on dit, Houston, nous avons un problème. Parce que ça, c'est une blague pour les anciens, les plus jeunes ne connaissent pas. En règle générale, un trésor attire la convoitise, l'envie de voir. Mais nous le savons tous, ce trésor-là dont on parle aujourd'hui n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, qu'est-ce qui se passe? Il attire la haine. Et vous avez vu ce témoignage de Kirti, il y a quelques minutes, témoignage frappant, témoignage secouant, il attire la haine. Même ici en France, à Chambéry, à La Motte-Servolex, à Cognin, à Challes-les-Eaux, l'évangile dérange. Il gêne qui? Les incrédules et par-dessus tout, le diable. Il déteste ce trésor car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux. Vous savez, ce diable qui disait dans le jardin d'Éden, « Vous aurez les yeux ouverts. » Notre trésor, notre réel trésor nous ouvre les yeux. Le diable fera tout pour empêcher les hommes de découvrir ou de garder ce trésor. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'un seul jour, qu'un seul moment. Au retour de Jésus. Au verset 4, Paul parle des incrédules d'une manière terrible. Il dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte de la connaissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous taire, cacher notre trésor. Au verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a reçu soi-même. C'est un principe général connu. S'il y a de la lumière dans mon cœur, il y en aura sûrement autour de moi. Et parfois, nous pouvons avoir peur et être tentés d'enterrer le trésor, comme on le fait parfois avec les trésors, de l'Évangile. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Matthieu 5. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Parce que nous sommes fragiles. Alors, il y en a quelques-uns parmi nous qui aiment les super-héros, dont un qui a parlé ce matin derrière ce micro. Suivez mon regard. À l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir des super-pouvoirs leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, je vais évoquer une certaine théologie qui propose cet évangile facile et confortable. Mais la vérité est autre. Au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. » Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre qui le contient. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, poussière du sol, est comparé à un vase. Le vase est fragile. L'homme extérieur dépérit, la tente est destructible. Ça peut sembler triste, mais le messager est de peu de valeur, mais il est porteur d'un message d'une énorme, grande valeur. Il est intéressant de remarquer que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient semblé plus puissants et plus aptes que les hommes. Intéressant. Dans sa sagesse, Dieu prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils sont ses objets, sa grâce. Écoutons le témoignage qu'Anne-Marie va nous lire du pasteur Madhira Koti Reddy en Inde.
Madhira Koti Reddy était si malade que les médecins lui avaient annoncé qu'il allait mourir d'ici une semaine. Il fallait appeler sa famille. Une fois la famille réunie, Koti Reddy a eu une vision dans laquelle il a entendu Dieu lui révéler « Je vais te guérir, car j'ai un grand plan pour toi ». Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais en 15 jours, sa tumeur incurable était résorbée. Et puis, il a eu une deuxième vision. Et cette fois-ci, Jésus lui a annoncé « Tu vas prêcher à mon sujet ». Koti Reddy lui a répondu « Mais je sais à peine parler, je ne sais pas lire, je ne suis pas théologien, je ne peux pas prêcher ». Mais il a simplement attendu en priant. Puis un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette qu'il avait aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio-amplifiée. Tout cela avait été préparé pour Koti Reddy sans qu'il le sache. Le pasteur lui a remis le vélo en lui disant « Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais je me suis senti poussé à le préparer pour toi. Je ne sais même pas si tu vas l'utiliser, mais le voilà. » Koti Reddy est alors devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique. Il circulait dans les villages en annonçant l'évangile à tous ceux qui étaient intéressés. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où il a été arrêté et qu'on lui a ordonné de ne plus revenir. Sinon, il serait tué. Mais il en fallait plus pour intimider Koti Reddy. Il a répondu sans hésiter qu'il reviendrait. Alors une nuit, alors qu'il dormait, un extrémiste hindou est venu avec une hache pour le tuer. Koti Reddy a été frappé à plusieurs reprises et s'est retrouvé à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un partenaire de Portes Ouvertes, en Inde, est allé lui rendre visite et a posé cette question à l'épouse de Koti Reddy. « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle lui a répondu « Mais pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. Alors celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. » Aujourd'hui, Koti Reddy a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie et il explique « Ma vie est ainsi faite qu'elle puisse être utile pour lui. »
Merci Anne-Marie. Kirti et Koti Reddy sont tous deux des vases de terre d'argile, sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux pour Dieu. Des vases de terre d'argile, vous me voyez avec un enfant, j'en ai rencontré beaucoup lors d'une visite récente en Colombie. Comme des enfants de chrétiens pressés, opprimés, tués. Enfants comme ce jeune enfant, vivant dans la peur d'ores et déjà, malgré leur âge. Parfois, nous aussi pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, notre famille ou nos collègues. Mais Dieu nous choisit pour répandre sa lumière. Excusez-moi. Et c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Première question était, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ? Deuxième question, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution, l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui. Malgré ce qu'il exprime plus haut, car son soutien est divin. Dans le texte que nous avons lu, c'est extraordinaire. Il met en parallèle d'une manière saisissante les épreuves et les souffrances endurées dans son corps, sa chair mortelle, le vase, et les ressources divines qui permettent de les supporter et d'en être victorieux. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous, au Bourget du Lac, à Saint-Jean-d'Arvey, à Saint-Joire, et j'en oublie, Laravoir, je n'avais pas encore nommé. C'est toujours difficile quand on commence à mettre des noms, on en oublie, mais vous vous serez reconnus. Nous ne serons pas écrasés, car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser. Le péché. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Tout le monde a reconnu Ésaïe 53. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ce, à notre place. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures. Kirti a perdu son mari, Koti Reddy a été violemment battu. Tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie chaque jour. D'ailleurs, Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Il dit qu'il côtoie la mort en permanence. Il parle d'arrêt de mort. Chaque jour, en 2 Corinthiens, « Chaque jour, je risque la mort », 1 Corinthiens 15. « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie », Romains 8. Mais c'est par une telle abnégation que Paul, quelque part, imitait Jésus. Ses facultés, son intelligence, sa mémoire, sa force de caractère, tout était mis à la disposition de son Seigneur. Et quand on voyait Paul, il paraissait méprisable, misérable, faible, de sorte que toute attention était centrée sur le trésor qu'il contenait, le Christ. C'est dur, mais si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière divine aurait été atténuée. Mais si le vase est brisé, la lumière à la vie de la vie brillera. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, en Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne. Le constat, c'est que cela s'est retourné contre elles. Ces pressions ont servi à consolider et à purifier l'Église. Un dirigeant d'église en Iran dit ce que la persécution a fait, c'est détruire l'église qui n'était pas composée de disciples. C'est dur. Autrement dit, elle a provoqué un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve. On est souvent loin d'être là, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit et dans ce que l'on croit. À cause de la surveillance des agents du renseignement, ils vivent leur foi dans la clandestinité, mais ils trouvent des parades pour que l'Église continue de grandir. Et leur objectif n'est pas d'implanter des églises, mais de faire des disciples. Écoutons le témoignage d'Ava et Marduk, qu'Anne-Marie va nous lire.
Ava et Marduk sont des chrétiens iraniens fervents, prêts à tout abandonner pour Jésus. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Aujourd'hui, même si Marduk est rentré chez lui, il souffre des séquelles des tortures subies. De plus, ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens et leurs revenus, sans compter qu'ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte... Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu. Et j'en ai retenu de nombreuses leçons. C'était terrible et j'avais l'impression d'être dans un incendie encerclé par les flammes. Mais avec le temps, j'ai appris que Dieu était là avec moi, dans le feu. Aujourd'hui, elle considère que cette épreuve est arrivée pour son bien et celui de son entourage. Tout le monde autour de nous nous avait peur, mais maintenant je peux voir que cela les a rendus plus forts. Ils ont un courage qu'ils n'avaient pas avant. Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle l'avait même enseignée aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle a subie avec son mari qu'elle connaît la réalité de Dieu et de ses promesses. Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui, mais aussi qu'il règne sur toutes les autorités et tous les gouvernements, souligne-t-elle. Ava aime enseigner et elle considère que c'est un don qu'elle a reçu. Mais elle est bien plus qu'une enseignante. Elle aime aussi encourager les gens autour d'elle. Je sais comment réconforter les autres parce que j'ai été moi-même réconfortée, explique-t-elle. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant, sans défense, mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête à disposer à faire la volonté de Dieu. Un Dieu qui la garde, elle et son mari, dans toutes leurs activités, Notre vie est dangereuse, mais nous sommes heureux. Cela nous a rapprochés, mon mari et moi, et nous a rendus plus amoureux. Ces derniers mois, nous sommes remplis de joie, conclut-elle, confiante.
Merci Anne-Marie. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, que croyons-nous ? Nous croyons que comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il y a d'abord la foi, croire, puis le témoignage, parler, d'où la persécution du témoin jusqu'à la mort. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle du Christ. Paul peut vouloir dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expérimentent chaque jour en témoignant courageusement de leur foi malgré tous les risques pris pour leur vie. Et puis, il y a la gloire future, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et ce verset introduit un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères et courtes au regard de la gloire future. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Cette gloire est premièrement infinie en quantité, surabondante. Deuxièmement, infinie en qualité, un poids insurpassable. Et troisièmement, infinie en durée, éternelle. Vous vous rendez compte de ce que veut dire éternel ? Il n'y aura pas de fin. Quel cœur que celui de Paul, un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Seule la foi, conviction des choses invisibles, Hébreux 11, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur, Éphésiens 1, voient au-delà de notre vie terrestre. Ils voient les choses glorieuses du ciel et se fixent sur le Seigneur de gloire. Vous savez, très souvent, je manque de foi. Très souvent, trop souvent. Si nous manquons de foi, nous pouvons faire nôtre cette prière de Paul aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. Éphésiens 1. Nous ne perdons pas courage. Verset 16. Nous ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres autour de nous. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Parfois, nous sommes accablés. Mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait esclave volontaire pour l'amour de Jésus. Mais s'il était livré à la mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer deux choses, la bonne nouvelle et la grâce de Dieu, ou la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle beauté! C'est pas compliqué. Quelle simplicité dans ce langage et quelle vérité. Il avait compris un truc, hein, c'est qu'il était imitateur de Dieu, de Christ. Que son exemple et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incitent à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que notre Seigneur veut nous confier. Amen. Sur ces quelques paroles, nous allons maintenant avoir un moment d'intercession et de prière où je nous encourage à porter nos voix vers celui qui est la gloire avec un grand G et qui nous accepte par sa grâce avec un grand G.
À cause de ton nom.